Du coup, comme vous a dit Anthony, on va débuter sur le thème de la créativité. Donc pour commencer, une question générale, mais pas si facile que ça. Comment est-ce que vous définiriez, tout un chacun, la créativité?
À moi, en
Tout
premier.
le monde.
La créativité, je dirais que c'est surtout l'ouverture. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'ouverture, c'est la capacité à voir les choses de manière très large pour pouvoir en fait faire les connexions que l'on veut. Donc, quand on voit une couleur, c'est pas forcément une couleur, mais de se dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire, toujours élargir un petit peu en fait ce que l'on observe, ce que l'on vit, ce que donc enfin pour moi en tout cas c'est ça.
Vous avez le droit de soit rebondir, soit de repartir la question initiale, faites comme vous
Non,
voulez.
non, du coup, on avait fait un temps de conférence un peu sur le sujet avec Marie, et je trouvais à titre personnel que l'analogie avec le muscle, pour moi, en fait, la créativité, c'est un muscle qui se travaille. Et souvent, quand on va voir nos clients et qu'ils nous disent, ah non, mais moi, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas créatif ou je ne suis pas innovant. En fait, c'est différent pour moi, la créativité, ce n'est pas de l'ordre du génie. C'est pas ce qu'on recherche. La créativité, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, sur lequel il faut travailler. C'est avoir des réflexes d'ouverture, avoir des réflexes de diversité, travailler avec des personnes qui n'ont pas les mêmes façons de penser. C'est lire des choses dans d'autres domaines de discipline. C'est ça, en fait, qui va permettre d'être curieux, en fait, finalement, de cultiver ça. Et pour moi, c'est vraiment, je trouve que le côté muscle, on s'entraîne comme un sportif et de façon régulière, on fait des exercices qui permettent d'être créatif. Ouais.
Je suis vraiment d'accord avec Marie. Avant toute chose, c'est une grande ouverture d'esprit et une curiosité infinie et la capacité de pouvoir connecter des éléments qui ne sont pas forcément évidents. Et du coup, il faut une liberté énorme. Il faut ne pas avoir un contrôle total et de laisser faire les éléments et les gens et la collaboration et tout cette diversité qui permet d'être créatif.
Alors moi, je vais le prendre sous l'angle de l'utilisateur. Je suis client de l'événementiel. Je suis un exposant fidèle depuis des années des salons. Et la créativité m'anime parce que je m'aperçois que ça fait 13 ans qu'on fait le même salon à Paris. Et si au jour d'aujourd'hui, on est encore différent vis-à-vis des autres, c'est que justement, on est créatif. On reste très ouvert à la création. Et pour stimuler cette création, comme elle expliquait sur le côté muscle, ben moi, en fait, j'ai plein de muscles chez moi. J'en ai une trentaine et je fais en sorte que tous les muscles de l'entreprise travaillent et ça nous permet justement d'avoir une ouverture chaque année de créativité, de différence, d'innovation parce que la créativité amène de l'innovation. Et c'est vrai que ce côté créatif des choses dans votre métier de l'événementiel, et moi je le vois en tant qu'utilisateur, est très. Je dirais un mot très fort, mais très jouissif pour moi, parce que c'est un outil formidable de communication. Et cette créativité aide à notre communication. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment un point important.
Du coup, pour repartir sur l'idée du muscle, comment on l'entraîne au final?
Ah ben, l'entraînement, c'est comme elle dit, hein, c'est chaque jour. Parce que si à un moment donné, vous vous mettez trop au repos, le marathon, vous descendez à 10 km. Et ça devient moins productif. Non, non, c'est vraiment, on stimule la créativité par le biais, alors nous, en interne. Beaucoup de réunions, beaucoup de brainstorming, beaucoup d'échanges. Et c'est de ces échanges qu'il y a de la créativité. Mais on reste très ouvert. Et nous, on a eu un. D'ailleurs, je vous invite tous à venir le voir. Je vois qu'il y a des grands architectes. C'est toujours intéressant de parler des gens comme vous. Nous, on est dans notre métier, c'est d'être un aménageur d'espace au sens large du terme. J'équipe aussi bien des entreprises du CAC 40, des grandes administrations, je fais de l'auditorium, mais j'équipe aussi des particuliers. Et on a ouvert un très très beau showroom rue Réaumur à Paris. Et on est, je pense, à l'heure actuelle, un des plus beaux showrooms de Paris. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que la créativité soit le maître mot de ce lieu. Et on a eu beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. Et j'ai laissé libre cours à toutes les idées, justement, pour ne pas bloquer la création. Parce que je pense que la création se limite à partir du moment où vous bloquez les idées. Et là, on a fait en sorte que toutes les énergies se développent et on a fait aboutir un travail exceptionnel et on a un lieu magique, plein de créativité.
C'est où, au mur?
Juste à côté de la bourse,
D'accord.
au 115. Et on est en fait, on est un lieu inspirant On est un lieu, d'ailleurs, on a beaucoup d'archis qui viennent maintenant dans notre showroom, même le privatiser, parce qu'ils trouvent que c'est un lieu qui les stimule également à la créativité. Et j'ai créé une salle de créativité. J'ai créé une salle destructive, au fond d'une salle de réunion où personne s'y attend. Et quand on ouvre les portes, c'est « Ah !» Et même des archis reconnus disent « Ah ouais, quand même, vous avez… » Bon, quand je vois des projets tels qu'il a exposé tout à l'heure, on est tout petit, hein, mais malgré tout, à notre échelle et dans notre métier, on fait partie de ceux qui ont fait jaillir de la créativité une différence. Voilà.
Moi, pour rebondir un peu là-dessus, pour le coup, moi, de laisser tout, enfin, la carte blanche, enfin, pour moi, me fait très peur. Et moi, la créativité, je l'entraîne, enfin, au quotidien, moi, je me mets en danger. C'est que je me mets des challenges, qui, plus des contraintes, en fait, finalement, où je me dis, enfin, chez les bosons, il y a toujours plein de trucs à imaginer, tout ça. Et en fait, parfois, je fais exprès de me dire, bah, là, il faut que ce soit une forme de vidéo, parce que je sens qu'il faut que ce... Et pourtant, moi, je suis nulle, hein. J'aime pas ça. Mais du coup, ça va me forcer... À du coup me dire comment je vais faire pour et du coup de me mettre en danger en permanence,
ça stimule la créativité.
Voilà, ça me force à m'ouvrir d'un côté où j'ai pas trop envie de m'ouvrir, mais finalement je vais trouver d'autres moyens de m'en sortir entre guillemets, et du coup c'est comme ça que aussi j'apprends et que bah, je développe d'autres outils, d'autres façons de faire et de, enfin voilà, d'autres façons de penser aussi. Moi, c'est plus en me mettant en danger. Je suis un peu ça.
Non, je suis tout à fait d'accord. Plus qu'un muscle, je pense, pour moi, c'est l'inverse. C'est comme ce qu'a dit Marie, c'est-à-dire qu'on a des contraintes des matériaux qu'on utilise, des logiciels qu'on utilise, des outils qu'on utilise, des machines qu'on utilise. Et toutes ces contraintes nous permettent de créer au travers de cette compréhension des contraintes. Et c'est ça qui permet de créer des objets qui ont l'air presque naturels. Et d'une certaine manière, créativité, je voulais dire qu'il n'y a rien pour moi de plus créatif que la nature. Et c'est fait de plein de coïncidences. C'est-à-dire que la nature va avoir des mutations et peu à peu, les mutations vont s'accepter. Et la fleur est magnifique. Est-ce que la fleur a été dessinée? Peut-être pas. Peut-être qu'elle a grandi au travers de contraintes, de mutations, de coïncidences. Et c'est de laisser faire ces coïncidences, de laisser faire ces mutations et d'être un peu plus comme un jardinier qu'un créateur avec des gros muscles qui va dire « je veux que ça soit comme ça ». Pour moi, c'est plus essayer d'observer et d'avoir un œil plutôt que des muscles.
Et du coup, c'est vous qui avez lancé l'idée du muscle?
Ah non, mais du coup, bah, non, c'est juste que... c'est juste pour rassurer les personnes, parce que parfois on se dit bah, je ne peux pas travailler ce thème-là parce que moi-même, je n'ai pas le génie, entre guillemets, parce qu'on a l'impression que c'est parfois, en fait, les directeurs artistiques les plus connus, on a l'impression que c'est comme des enfants de Dieu qui ont eu cette révélation et qui ont eu ce coup de génie, etc. Et je trouve que c'est très inspirant d'avoir des rôles modèles. Pour autant, ça ne doit pas... pour moi, la créativité, on doit la différencier du génie, parce que le génie, c'est très élitiste, et la créativité, c'est à la portée de tous. En effet, par contre, j'ai fait la référence avec un muscle, parce que je trouve que ça permet de s'entraîner. Mais en effet, le regard, l'observation, l'écoute, l'empathie, il y a plein de choses qui font que on peut développer cette connexion avec typiquement la nature, ou observer les petits détails qui vont faire la différence, parce que en fait, la créativité, on peut en faire partie.
C'est plus que nous, en fait, on, comme on travaille en entreprise, etc., souvent, en fait, enfin, c'est à la mode de se dire on va faire de la créativité. Et en fait, on se retrouve avec des clients qui sont en mode « Ouais, mais il faut avoir le truc. » Et on fait « Mais non !» Ouais, c'est pas un truc inné. Enfin, on n'est pas avec la créativité. C'est parce qu'on a été élevé d'une certaine façon, etc. Et que du coup, on peut, à partir de maintenant, si on n'est pas du tout créatif, de se dire « Ok, ben, je vais faire le travail de voir les choses différemment. » On c'est pas fini, quoi. Enfin, on n'est pas bloqué comme ça parce qu'on est chef du CAC 40 et dire oh, la créativité c'est bon, moi c'est trop tard. Mais non, c'est pour ça qu'on dit non, ça peut se travailler et que toi qui es dans ton bureau, derrière ton écran, bah, finalement, tu peux aussi, en fait, petit à petit, développer ce trait-là et l'utiliser aussi. Parce que c'était la grande question qu'on avait, c'était mais comment j'utilise la créativité alors que je suis expert comptable ? Et on était, oui, non, mais finalement, en fait, c'est quand on vient te voir avec un problème, rien que d'essayer de le voir sous un angle différent ou d'une temporalité différente, ou ça, c'est, finalement, c'est être créatif en un sens. C'est
sortir de la norme.
Voilà, et d'essayer de voir autre chose ou de transformer une contrainte, comme on le disait, de transformer une contrainte en quelque chose de moteur. Enfin, et donc, c'était plus dans ce sens-là qu'on avait fait cette prise de parole en disant « Les gars, c'est pas juste pour dessiner un truc qu'on utilise de la créativité, finalement. »
Et justement, pour prolonger ce que vous dites toutes les deux, le client ou l'entreprise te dit que justement elle sait pas faire ou et c'est votre boulot en quelque sorte de les accompagner là-dedans. Donc très concrètement, ça passe par quoi quand ton client il te dit bah ouais mais moi je suis pas créatif, je sais pas faire, enfin ce que vous disiez, comment derrière tu fais cette traduction opérationnelle? Est-ce que ça passe par la recommandation d'engager de nouveaux profils auxquels ils n'auraient pas pensé, que ce soit repenser des organigrammes, que ce soit, tu parlais des techniques de brainstorming, etc. Derrière, concrètement, comment tu la travailles dans une entreprise?
Nous, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, c'est on revient, on a toujours la même méthode, hein, mais on n'est pas très original, mais en fait, pourquoi? On travaille sur le sens et se dire, d'accord, tu veux être créatif, tu veux faire de l'innovation, mais pourquoi? Quels sont tes besoins? En quoi ça te sert? Et aujourd'hui, en fait, tu es qui? Et du coup, on va essayer de lui proposer des scénarios. Mais si y a beaucoup de personnes qui me disent « Moi, je veux quelque chose de super innovant, disruptif, etc. » Et quand on leur dit « Pourquoi ?» Bah, parce que en fait, c'est comme ça qu'on... C'est la tendance, je vais dans la tendance, etc. Oui, mais en fait, est-ce que la créativité ou est-ce que l'innovation va apporter quelque chose de nouveau en termes d'expérience? Est-ce que tu cherches à séduire? Est-ce que tu cherches à mieux rayonner, si tu cherches à sortir de ta zone de confort, qui sont pour nous des besoins. Et après, on va travailler sur ce besoin, mais on prend le temps de bien comprendre.
C'est déjà les embarquer, le en fait, dans la première démarche de créativité, qui est de se poser vraiment, de regarder, en fait, l'essence du problème de base. On leur fait déjà prendre ce gros recul pour, voilà, toujours regarder un peu différemment tout le problème. Et ensuite, après, en termes d'accompagnement vraiment concret, on leur fait vivre par des ateliers, des bootcamps, des choses comme ça. On leur fait vivre un peu ce que ça veut dire que de prendre les problèmes différemment, comment on répond aux besoins. Et en fait, on leur donne un peu des outils avec les exercices qu'on leur fait faire. C'est déjà une première étape en disant, tu vois, finalement, ce problème-là, on l'a fait en se mettant dans la peau de gens ou en faisant un truc visuel. Et on leur donne déjà des premiers exemples de façon de traiter un problème que derrière, bah, du coup, ils peuvent aussi appliquer. Il y en a un, il nous a dit « Trop bien, j'ai fait le truc avec mes équipes. » On a essayé de refaire un exercice comme on a fait ensemble avec mes équipes et ça a trop bien marché. Enfin, il était trop content, on a dit bah, super. Enfin, mais du coup, c'est lui faire vivre une petite démarche de créativité pour qu'il se rende compte de ce que ça veut dire.
Et d'autant que dans nos métiers, enfin, nous qui travaillons avec les entreprises essentiellement, il y a eu un tel bouleversement des modes de travail qu'il faut vraiment les pousser dans leur réflexion parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop loin et trop vite parce qu'on a vu la catastrophe des open space il y a quelques années. Hein, l'open space m'a tué, c'est pas fini, mais il y a quand même une amélioration nette depuis un certain temps parce qu'il y a justement des gens comme vous qui poussaient à la réflexion ces entreprises et qui permettent justement d'aboutir à des résultats qui fonctionnent. Les résultats ne fonctionnaient pas, donc la créativité a tout son sens justement à ce niveau-là.
Du coup, pour rebondir là-dessus, tu parlais par exemple de vouloir suivre les tendances à tout prix, même quand il n'y avait pas vraiment de sens derrière. Comment on peut faire pour ne pas tomber dans cette injonction à la créativité et le fait qu'il faut être créatif à tout prix dans cet état actuel?
Il y a aussi une dose de pragmatisme, parce que la créativité peut aboutir, et on l'a vu avec certains grands cabinets parisiens qui ont poussé la créativité à leurs clients et qui, au final, lorsqu'on a livré, ça fonctionnait absolument pas. Parce que justement, il y a eu peut-être trop libre cours à la créativité et que les clients s'étaient trop reposés et n'avaient justement pas fait ce travail de réflexion, comme vous dites, où vous les poussez un petit peu dans leur retranchement et se dire, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça ne fonctionnera pas.
C'est le retour au sens.
C'est exactement ça. Je pense que c'est retour aux vraies valeurs et s'adapter à ce monde qui change.
C'est de se poser la question de pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et si là-dedans, il n'y a pas besoin de créativité, et c'est en fait rassurer les gens et continuer dans la tradition du truc, mais fine. Ça veut dire que c'est l'essence, c'est ton essence, c'est ce que tu es. Et voilà, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui viennent nous voir. On veut faire du flex.
Attention, posons-nous.
Et on est là, mais t'as vu tes gars ? Ils sont, c'est pas possible.
C'est sympa ça.
Mais non, mais vraiment de se dire, pose-toi deux secondes, pourquoi tu veux faire ça ? Est-ce que vraiment ça ressemble à ton corps social ? Ça te ressemble à toi ? Est-ce que tout le monde veut faire du Google ? Ben ouais, tout le monde a envie d'être trop cool. Et on est là, mais si tu n'es pas Google, c'est très bien aussi. Et juste définissons ensemble qui tu es et qui sont les gens que tu fais travailler et quelle expérience tu veux leur faire. C'est essentiel. Et souvent, en fait, aujourd'hui en architecture, je pense que tu vas partager, mais il y a plein d'endroits où, sérieux, ils n'ont pas pensé aux gens qui allaient dedans. Et,
c'est clair.
Et du coup, quand on voit des espaces comme ça, on se dit, mais on construit pour des gens. Enfin, à la base, les architectes, ça construit des maisons pour des gens. Et donc aujourd'hui, souvent, il y a des architectes stars un peu qui font de l'art architectural pour moi. Ils s'expriment, ils font leur art, mais ils s'en foutent. Et limite, je pense que ça leur fait du mal de voir qu'il y a des gens qui vont dedans. Et qui, la station F, je pense qu'ils pètent un câble, hein, Jean-Nouvel. Ils doivent être en mode, mais oh, ils ont mis des post-it, machin, ça doit être horrible. Tu vois, mais parce qu'il ne s'est pas dit, je le fais pour des entrepreneurs qui vont travailler, qui vont faire... Lui, il a fait son truc magnifique et c'est très beau. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas dans l'équation start-up, machin. Enfin, et ils s'en foutent des mecs. Et je trouve... Enfin, nous, on essaie toujours dans toutes nos démarches de dire deux secondes, attends. Reviens et regarde-toi un peu dans le miroir. Enfin, et c'est un peu une introspection avant de se lancer dans un truc. Et du coup, je réponds de manière très, très tortille.
Je réponds parce qu'il s'agit d'architecture. Mais il y a Laurent qui a dit quelque chose de très... Ça m'a parlé. Il dit que l'aspect technique du projet est revenu comme un boomerang dans ma gueule. Ou un truc comme ça.
Oui.
Et je pense qu'on a tendance à séparer la créativité du pragmatisme. Ou la vision du jour le jour. Ou le geste de l'artiste et les gens qui vont habiter et qui vont utiliser l'espace. Et cette contradiction est terrible. Et elle crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je pense que la solution, c'est d'avoir ce boomerang, parce qu'on ne peut pas l'éviter. C'est vrai que quand on a une idée, on ne peut pas la tester immédiatement. L'architecture prend du temps, on n'a pas tout de suite un feedback. Mais c'est de l'accélérer. C'est-à-dire que d'essayer de trouver des scénarios, tu parlais de bootcamp, de peut-être oui, de faire des échantillons, de tester les éléments eux-mêmes, de faire intervenir le client, d'avoir une sorte un client presque architecte lui-même, c'est-à-dire de lui faire sentir qu'il fait partie du projet, de lui faire comprendre quels sont les paramètres. Notre architecture, elle s'appelle paramétrique. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme, parce que ce sont des paramètres. Je parlais de la fleur, qui a tous les paramètres environnementaux, les paramètres de survie, et tous ces paramètres doivent être compris pour pouvoir faire un projet qui a un sens, mais pas que dans un sens artistique. Il a un sens, les flux des gens, le programme, la distribution des espaces, les matériaux qu'on utilise, le prix, la construction. Il faut presque penser en quatre dimensions avec le temps et avec l'assemblage du bâtiment et peut-être presque son désassemblage dans le futur. Mais ça, c'est quelque chose qui est très, très nouveau. C'est-à-dire que l'idée, parce qu'il y a tellement de paramètres que l'humain ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas je veux dire, ça serait impossible, ou alors il faudrait des centaines de personnes pour pouvoir tout prévoir, que ça soit de la construction à l'utilisation. Et c'est là que l'utilisation des ordinateurs, l'intelligence artificielle, tout ça va nous permettre de pouvoir faire des simulations, structures, flux de personnes, scénarios. Et c'est là vraiment que l'innovation technologique va permettre d'améliorer peut-être l'architecture dans ce sens-là.
Mais par contre, il y a une chose que j'ai relevée dans votre discours de tout à l'heure qui m'a plu, et vous avez été un peu dans ce sens aussi, c'est quand vous dites il n'y a pas l'archi et le décideur. Et ça, je trouve ça assez fort parce que ce n'était pas du tout la vérité il y a quelques années. Il y avait l'archi et le décideur. Et là, vous dites en fait que vous êtes toujours de concert avec le décideur et que le décideur devient un peu archi. Et c'est ce que vous avez exactement dit tout à l'heure. Et ça, je pense que ça stimule la créativité. Parce qu'elle n'est pas centrée que sur votre savoir-faire, parce que le client a son savoir-faire aussi. Mais sauf que le client, il a ce savoir-faire, mais il ne sait pas l'exprimer nécessairement parce qu'il n'a pas l'interlocuteur en face de lui qui sait mettre en place ce savoir-faire. Et je pense que là, ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, sur scène, je l'ai même noté, parce que j'ai trouvé que c'est fort parce que ce n'est pas toujours simple de partager le succès d'une opération en disant que ce n'est pas qu'un succès de l'archi ou de celui qui fait, mais c'est aussi un succès parce que le décideur a su comprendre, a su prendre les décisions avec moi. Et ça, je trouve que c'est formidable. Et ça, ça stimule la créativité. C'est ça.
Oui, parce que ça encourage le client à comprendre l'approche et du coup à en faire partie et peut-être de prendre les bonnes décisions.
Et c'est ça.
Plutôt que, on va parler de Jean Nouvel, je travaille sur la Philharmonie avec eux. Et le budget augmente, et Jean Nouvel n'est pas content, et je ne suis plus l'architecte, mais c'est n'importe quoi.
Il le fait savoir.
C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il utilise l'argent des impôts pour faire quelque chose qui n'avait pas de sens. Et que, enfin, je suis désolé, j'ai beaucoup aimé travailler là-bas. Pourquoi non?
Non, mais
il n'y a pas aucun souci. Voilà. Je veux dire, ce que c'est un vrai problème si l'ego de l'architecte se met contre le sens de tous.
Et c'est à ça qu'on en est arrivé à des catastrophes d'utilisation et de clients, parce que justement, l'architecte, le client n'osait pas franchir cette barrière que vous imposiez à l'époque. Et je pense que c'est assez nouveau d'avoir cette approche très collaborative, très collégiale. Et à l'époque, il y avait l'architecte, enfin là on parle des archis, hein, il y avait l'architecte et les autres. Mais c'était clairement ça que nous on ressentait même dans notre métier. C'est-à-dire que quand l'architecte a pris la décision, le client se pliait à la décision de l'architecte sans savoir si ça allait impacter ou pas le fonctionnement de son entreprise. Et ça, moi, des discours comme ça, je les bois parce que je trouve que c'est fabuleux. Mais non, mais parce que c'est tellement rare. Enfin, ça me paraît encore rare.
Oui, c'est encore rare.
Ah, on est d'accord.
Et du coup, il faut, enfin, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment traduire. En fait, se forcer à traduire le côté entreprise et la strate, etc., pour qu'en face, la réponse architecturale soit alignée en fait, avec toutes les problématiques de l'entreprise.
C'est clair. Et si on relie au sujet qui intéresse votre lui-même, moi, en tant qu'utilisateur de stand, ce qui fait que notre stand fonctionne, c'est parce que justement, mon designer d'espace, enfin de stand avec ses archis, se met à ma place et je me mets à leur place. Et c'est justement une vraie collaboration et c'est de ça qu'on sort vraiment quelque chose de différent. Que si je restais que sous le joug de mon architecte et qu'il m'impose un projet, parce que c'est souvent ça, dans les stands, on peut être déçu. Moi, je pense et je lui demande qu'on ait un vrai travail de collégialité de bout en bout du projet pour que le résultat abouti soit exactement celui que lui, il attendait et celui que j'attendais. Et à ce titre-là, ça fonctionne. Et ça, c'est génial. Et donc, pour les stands, moi, je trouve que ça fonctionne aussi.
J'avais du coup envie justement de vous poser la question à travers l'illustration. Donc, tu commençais justement à en parler. Peut-être quel est le dernier événement, c'est-à-dire le dernier moment ou le dernier événement que vous avez jugé vous-même créatif, en quelque sorte, que ce soit par son processus amont, par la collégialité, que ce soit par sa mise en scène, que ce soit par le discours, que ce soit par un truc, en fait, dans cet événement, et que pourraient, par exemple, aller voir les personnes qui vont vous lire ou vous écouter.
Alors moi, je peux commencer. J'étais à un festival le week-end dernier qui s'appelle la Magic Festival. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'expérience qu'ils proposaient aux festivaliers, puisque donc on partait dans un bateau en fait de Paris qui nous amenait à Carrières-sur-Seine. Donc c'est en banlieue à 4 arrêts du RER sur la A, si certains connaissent. Et en fait, on était amené dans un endroit qui était petit, mignon, où il y avait de la musique, plein de paillettes, et puis finalement des canapés partout. Mais avec du sens, parce que tous les canapés étaient recyclés, les paillettes c'était avec des personnes, etc., parce que c'est, tu donnais des dons, tout avait un sens, et puis c'était vraiment une expérience en soi. Le fait qu'on nous prenne à un point A, qu'on nous emmène, en fait on se laisse porter, on vit quelque chose. Et donc ça c'est le côté un peu millénial, mais enfin voilà, le fait que ce soit réfléchi comme c'est pas je vais à un festival, parce que c'est toujours horrible en fait, le transport, d'arriver, de faire la queue pendant 10 ans, enfin le retrait des badges, etc. Et en fait là on arrive et on est pris en main et on n'a plus qu'à kiffer quoi. Donc là ça j'ai bien aimé, mais c'était un festival.
Ouais, moi j'ai besoin de réfléchir encore.
Il y avait un truc que je voulais répondre sur ce que vous avez dit. Il y a le client et l'architecte, bien sûr, mais il y a aussi l'ingénieur, l'économiste, l'ingénieur structure, l'ingénieur environnement. Et il y a, pour moi, le grand âge de la créativité, c'est peut-être quand on construisait les cathédrales, quand l'architecte et tous les parties, les gens qui en faisaient partie, même les constructeurs, faisait partie de ce chantier et échanger de manière empirique des idées d'un projet à l'autre et créer cet ensemble créatif. Et c'est ça, c'est un ensemble créatif, c'est-à-dire c'est plus un homme, un visionnaire, ou c'est vraiment une somme de génies plutôt qu'un génie à qui on va dire répond à tous mes problèmes. et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très différent qui permet de créer des choses beaucoup plus grandes que ce qu'une personne aurait pu faire. Ça répond pas du tout à la question.
C'est pas grave. Mais, c'est,
j'ai envie de le dire.
C'est un très bon aparté. C'est très bien. Vous les trouvez, si on parle du Média Salon, quand vous allez vous-même sur des salons, qu'est-ce que vous dites ? Enfin, c'est quoi alors la question n'est pas simple, mais c'est bon, il y a le thème de la créativité, mais il ne faut pas se laisser emprisonner non plus par ce mot-là qu'on mettrait 15 jours à définir. Mais ouais, qu'est-ce que vous pas dire donneriez comme conseil, parce que c'est un peu présomptueux, mais qu'est-ce que vous, si vous étiez en dialogue avec un directeur de salon, qu'est-ce que vous, soit bah, quelle question vous auriez envie de lui poser, soit qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire sur votre expérience d'usager
là-dedans. C'est vrai, déjà, quand tu vas dans un salon, en tant que visiteur, tu as deux ressentis immédiats. Tu sens le salon où il y a eu un travail, une volonté d'accueil des gens. Et là, tout est mis en scène. Et là, pour le coup, bah, tu rentres déjà dans de bonnes conditions pour aller visiter ton salon parce que c'est agréable à regarder. Tu vois que tous les stands ont fait des efforts. Et puis, tu as encore malheureusement... Moi, il y a des salons, je rentre et puis je sors quasiment immédiatement parce que je sens aucune chaleur, qu'elle soit dans l'accueil, dans l'esthétisme. Et ça, c'est le sujet qui nous parle. Pas beaucoup de créativité. Et clairement, j'ai fait un salon pour accueillir des visiteurs pour un thème donné. Et puis ça fonctionne pas, peu importe. Alors, je pense qu'un organisateur de salon, de plus en plus, les gens ont moins de temps. Donc, quand ils utilisent leur temps, il faut que ça soit bien utilisé. Et donc, quand ils vont dans un salon, parce que c'est le thème dont tu souhaites parler, je pense que les organisateurs de salon, si je devais avoir des conseils, c'est vraiment être hyper vigilant sur cette notion immédiate de ressenti, d'émotion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'émotionnel. Et moi, il y a des salons où j'ai de l'émotion, il y en a, je n'en ai pas du tout. Et je trouve que c'est malheureux parce que c'est certainement pour ça qu'après, des commissaires de salon se disent « Ah ben, notre salon, il est en baisse depuis des années, mais il y a peut-être aussi un manque d'innovation et qui fait que ben, ça ne fonctionne pas. » Donc, vraiment, c'est cette notion d'accueil et de ressenti immédiat pour le visiteur. Ça qui, à mon sens, est vraiment un travail important. Et qui, en plus, implique l'ensemble de vos métiers. Parce que c'est aussi bien l'organisateur que celui qui met en place le salon, que celui qui l'équipe, que celui qui fait
que le lieu.
Le centre, c'est vraiment très... Ben, tout à l'heure, quand la personne a dit « Moi, j'avais déjà gagné 80% du travail parce que j'étais au Grand Palais », je suis d'accord, mais je ne mettrai pas le curseur à 80% quand même. Mais bon, après, c'est son ressenti, elle. Mais c'est vrai que ça joue déjà. C'est clair que quand tu as un beau lieu, ça invite les gens
waouh du lieu.
C'est un peu l'effet waouh, mais il faut que aussi le contenu soit à l'image du contenant. Parce que sinon, ça peut au contraire desservir le contenant.
Je ferai gaffe un peu sur l'effet waouh, parce qu'il y a quand même ce truc c'est bon, si je mets la pâtée à l'entrée.
C'est pas l'effet waouh, je parle, moi je parle de ressenti.
Oui, moi je dis globalement, quand on dit il faut donner de l'émotion dès l'entrée, faut nuancer dans le sens émotion n'est pas égale waouh, parce que comme on met beaucoup la lumière sur des trucs comme le C2, etc., on dit ah ouais, mais en fait il faut mettre la pâtée, plein les yeux, les paillettes, tout ça. Moi, je trouve que c'est pas forcément ça. C'est plus quand on va réussir, c'est méga dur, hein, mais quand on va réussir à faire sentir à chaque individu de son individualité dedans, c'est ouf. Enfin, ça veut dire que... les salons où on ressent rien, c'est parce que quand on arrive, ça parle pas. C'est que on est là pour accueillir beaucoup de monde. Bon, voilà. Et c'est pour ça que c'est un peu aseptisé. Mais si les salons qui arrivent à faire vivre dès le début, un peu, on t'emmène toi, petit individu,
ah ouais, c'est ça,
dans le truc. Donc c'est pas forcément des ouf. Mais juste si on arrive à faire un truc intime, à créer un lien intime entre le salon et nous, c'est ça qui, enfin, pour moi, c'est l'ultime truc, quoi. Enfin, de se dire, ça c'est gagné, quoi. De se dire qu'en sortant, le mec il fait, limite, il a été fait pour moi.
Non, mais c'est ça.
J'ai eu un parcours à moi. Et ça c'est ouf. Ça le plus dur, hein, en vrai, mais parce que ça brasse du public, hein, les salons. Mais ça, je trouve que c'est un truc à essayer de garder en tête.
Oui, l'idée d'interaction, d'y aller et de ne pas être que spectateur, c'est-à-dire d'être impliqué, c'est ça qui compte le plus. C'est-à-dire que si on est complètement passif, on perd le fil, on s'emmerde et on se barre. Si soudainement on arrive et il y a des éléments avec lesquels on peut jouer, on peut même prendre des éléments, on n'est pas sollicité d'un point de vue commercial, c'est plus presque comme quand on va dans un musée, mais à la fois on se rend compte que bien sûr il y a un élément commercial, mais c'est pas ça qui fait l'expérience. C'est-à-dire l'expérience compte plus que la somme des différents éléments qui sont là, un fil conducteur ou une infinité de fils conducteurs. Ouais, je suis d'accord.
Et du coup, pour finir, on va revenir un peu sur sur l'espace, parce que vous travaillez tous sur l'aménagement de l'espace. Donc ce serait comment, vous avez beaucoup parlé de l'importance d'avoir des parcours, justement. Comment on peut utiliser ces parcours et la créativité pour vraiment créer des parcours et essayer de s'adapter et de stimuler les publics?
Moi, je peux répondre. Si en fait, j'ai pas été sur l'espace parce que c'est pas du tout mon métier. Par contre, j'étais aux eaux de Vincennes récemment. Ce que j'ai bien aimé, alors moi, je parle en termes utilisateurs parce que du coup, l'espace, je maîtrise pas. Mais vraiment, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'on avait un plan et qu'on me proposait 5 expériences. On me proposait l'expérience grand primate, on me proposait l'expérience super reptile, ou on me proposait l'expérience petit être mignon. Et en fait...
Et t'es allé où alors, du coup?
Grand reptile. Et du coup, j'avais mon plan et je me dis, waouh, 5 expériences. C'est comme les livres quand on est petit et qu'on ouvre et on se dit... Soit tu choisis aller à la page 50, soit tu choisis aller à la page 70. Par contre, c'est un peu toi qui décide de ton histoire. Et ça, je trouvais ça bien d'avoir le choix. Et en termes de parcours, en fait, imaginer les plans en disant, c'est pas ce bloc ou ce bloc. Parce que du coup, moi, j'ai l'impression un peu d'être emprisonnée en disant, soit je vais à un bloc et je reste dans le bloc, ou soit je vais à l'autre bloc. Moi, j'ai envie de me dire, je vis telle expérience, ou soit je vis en fait... le côté super, super tendance, ou alors le côté j'ai besoin rapidement d'une solution. Imaginez peut-être des histoires en disant tu choisis ton parcours en fonction de ton besoin. Et enfin, en tout cas, moi ça m'a plu, c'était l'expérience aux autres insectes. Voilà.
dans notre approche architecturale, l'idée que de poser des objets complètement séparés de l'un à l'autre, c'est ça qui crée un problème, qui crée des murs entre les éléments. Même s'ils n'existent pas forcément, le fait de ne pas réfléchir aux connexions entre les différents éléments, c'est ça qui crée un manque de parcours, un manque de... Donc je parlais encore de l'architecture paramétrique, c'est-à-dire qu'on est tous humains, on a tous un ADN et pourtant on est tous différents. Et donc on est liés puisqu'on est humains. Pareil pour différentes espèces, elles sont liées avec leurs ADN et c'est des variations minimes. Donc on peut très bien réfléchir à des éléments qui ont le même ADN mais qui sont des variations pour permettre différentes fonctions. Par exemple... une chaise, une table, une colonne pourraient faire partie du même langage. Et du coup, ça crée une connexion visuelle et ça stimule parce qu'on se dit « Ah, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes éléments. » Du coup, il y a un lien de langage et une cohérence globale qui serait similaire à celle qu'on trouverait dans une forêt, par exemple. Plutôt que d'essayer de mettre des écosystèmes qui ne marchent pas entre eux, de penser à l'expérience comme un écosystème global. Qui permet d'avoir une expérience naturelle et pas dissonante ou plus harmonieuse peut-être.
Ouais, je suis complètement d'accord. Nous, il n'y a pas longtemps, on a réalisé du flat à la demande du client. Il y avait un architecte derrière. Et je suis complètement d'accord avec ça. Au départ, ils étaient partis dans vraiment des choses destructives complètes et on voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Et après, ils sont partis sur un autre sujet de dire on va créer vraiment une ligne conductrice. Certes, il va y avoir des choses qui vont être différenciées, mais on va recréer du lien entre ces différents espaces. Et ça fonctionne super bien parce qu'en fonction des étages, on est sur des thèmes radicalement différents. Et pour le coup, les gens parlent beaucoup de ça. Et quand ils sont sur cet étage, parce qu'ils peuvent avoir un lien, c'est du flets à l'étage. Heureusement, ce n'est pas du flets, je passe d'un étage à l'autre en permanence. Ça, ils l'ont testé, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, ils l'ont limité à des étages et ils sont en train de le limiter à des demi-étages maintenant. Ils resserrent de plus en plus. Mais malgré tout, sur ces étages, il y a un lien, parce que c'est comme des étages de 200 personnes, et il y a un lien de bout en bout du bâtiment. Et on est surpris, on est agréablement surpris par ce qu'on va voir, mais malgré tout, ce qu'on a vu en bout de plateau va ressembler quand même à ce qu'il y avait de l'autre côté, mais avec des fonctions différentes. Il y aura une fonction peut-être plutôt tisannerie, découverte, et une autre, une fonction plutôt collaborative, dynamique. Mais il y aura un lien qui se fera entre eux, et pour le coup, ça fonctionne super bien. Ça, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Complètement.
Finalement, plus que parcours, c'est l'histoire, enfin, écrire l'histoire, quoi. Parce que parcours, du coup, on se dit, c'est très limité à l'espace, mais enfin, à mon avis, c'est un mélange entre l'espace, la programmation, parce que les salons, en vrai, c'est toujours par thème ou ouais. Par structure, même parfois par taille. Enfin, donc, tu as tous les petits créateurs qui sont dans un endroit et les gros à côté, ou même à Maison et Objet. Ils ont un peu fait un truc à Maison et Objet, le bâtiment cosy, le bâtiment cocoon. Enfin, il y avait des thèmes comme ça. Mais même dedans, finalement, bah, y a les grosses maisons de luxe qui ont ils ont ramené leur magasin. Ils ont construit des murs autour pour que ce soit un petit peu intimidant. Et du coup, ils sont juxtaposés avec ceux qui ont... Enfin, c'est horrible, hein, mais ça fait vraiment ceux qui ont moins d'argent et qui, du coup, ont leur espace comme ça. Et c'est divisé d'une manière pas logique. Enfin, d'une manière où, finalement, bah, on n'a pas de cohérence quand on va bouger. Ben, je vais d'abord aller voir les gens qui n'ont pas de thunes et puis après je vais finir. Enfin, ça fait un petit peu ça. Il n'y a pas de logique de peut-être que bah, Gucci va être dans le très floral, machin. Et pourquoi ne pas le juxtaposer avec bah, du coup une petite créatrice qui fait des trucs qui est dans la même histoire, etc. Et finalement, plus créer une programmation qui. Comme un peu le zoo, là. C'est pareil. On raconte l'histoire des primates. J'imagine qu'en plus, il doit y avoir une dimension éducative, ouais. En plus. Mais c'est comment, du coup, faire plus des parcours comme ça, avec des histoires logiques plutôt que des histoires économiques, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu un tout, pas seulement espace, en fait. Mais plus tout ça et gros truc sur les connexions. Enfin, là, les salons, il y a des salons, c'est hyper beau, nanana. Et puis pour passer à l'autre hall, il faut passer dans des espèces de containers où d'un coup la déco s'arrête et puis un vieux tapis vert. Ouais, et on est là, genre, oh, ça casse le truc et du coup, tu as des transitions horribles. En plus, il fait trop froid, enfin, d'un coup, il n'y a pas de température. Donc, gros travail sur les connexions déjà.
C'est pour ça qu'il y a des organisateurs de salons qui travaillent de plus en plus et intègrent en interne. Vraiment des gens qui sont dans le design et dans ce genre de connexion, ouais. Parce qu'il y a des ruptures parfois qui sont atroces. Hein. C'est vrai que c'est...
Ouais, je ne sais plus lequel c'était, mais vraiment...
Ouais, c'est comme le resto où tu te rends compte qu'en fait, tu manges un super plat et c'est surgelé, quoi.
Ouais, ouais, c'est horrible.
Le truc où tu vois le surgelé derrière, t'as vraiment pas envie de voir ça. Enfin, en fait, on a pas envie de voir le bac, en fait. On a envie de rester un peu dans notre bulle.
Le derrière des stands. Tu sais, il y a les stands et puis à chaque fois, on voit le derrière... des stands et t'as, c'est normal hein, mais t'as tous les fils, t'as les experts qui sont partis en train de manger leur sandwich à l'arrache et en fait on se dit mais faut pas nous montrer ça, enfin il faut aussi le prendre en compte, enfin ou alors si c'est pas possible bah, le prendre en compte dedans et prendre la contrainte, ouais. et aussi le montrer.
Moi je suis complètement d'accord avec ça, je suis le pire cauchemar de mon standiste. D'ailleurs, on le dira tout à l'heure, mais parce que je suis sur ce genre de détails, parce que je ne veux pas en effet qu'un visiteur puisse tomber sur le cadavre dans les placards. C'est vraiment, je veux que partout où il ouvre une porte, il soit séduit et qu'il soit dans cette même notion de continuité. C'est un stand, c'est ça aussi. Ouais. C'est la continuité des espaces. Ouais. Et nous, on est hyper vigilants là-dessus, parce que je veux vraiment qu'il y ait une expérience qui soit agréable pour celui qui va venir sur notre stand.
Ben, la Biennale, c'était pour ça. Enfin, top. Vraiment, comme c'est, en plus c'est central, on passe tout derrière, etc. Donc il y avait zéro, enfin, c'était dingue. Et c'est pour ça, en plus, comme je disais tout à l'heure, ça impliquait des comportements un peu différents parce que, comme on sent pas d'envers et de. Et ben du coup, on se permet d'aller dans des endroits, on se faufile, on va dans les trucs. Enfin, moi, je me suis dit, c'est génial parce que du coup. Ça nous ouvre un peu l'espace, on nous permet d'aller dans plein de trucs. Et ça, c'est ouf, hein. ça enlève des barrières. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Voilà.
Oh bah super, merci beaucoup. Merci à tous.
De rien.
D'avoir accordé un peu de temps.
Merci, on a allègrement dépassé les 30 minutes. Désolé
pour le. Vous avez donné la clé?
Ouais, j'ai donné, c'est pour ça.
Ok, super.
C'est en place.